Chapitre 6e. Madame de Lucval avait en effet, depuis quelques moments, écouté son amie avec un redoublement d'intérêt et de curiosité. Aussi, ne pouvant résister à son émotion, s'était-elle jetée dans les bras de Valentine en s'écriant « Merci, merci à toi, ma tendre amie, tu m'as sauvée !» Madame d'Infraville, après ce moment d'effusion, regarda la jeune femme avec le plus grand étonnement et lui dit « « Mon Dieu, Florence, explique-toi. De quoi me remercies-tu? De quoi t'ai-je sauvé ?»« En effet, » reprit Madame de Lucval en souriant à demi, « je dois te paraître folle. Mais si tu savais quel service tu me rends, moi ? Oh, certainement, un grand, un immense service !» ajouta Florence avec un mélange d'émotion, de malice et d'ingénuité difficile à rendre. « Figure-toi que d'abord, en te sachant un amant, je t'ai envié, comme je t'enviais au couvent quand j'étais petite fille et que je t'ai vue mariée. Et puis, pourquoi te le cacher? Je trouvais dans le caractère de notre cousin Michel tant de rapport avec mes goûts et ma manière d'être que je me disais « Combien ce qui désespère cette pauvre Valentine me séduirait, me ravirait au contraire, moi qui n'ai jamais aimé. Voilà justement comment je comprendrais l'amour, de la paresse à deux. » Et il me semble que je serais bien heureuse d'avoir aussi un petit Michel. Florence, que dis-tu? Laisse-moi achever. Et pour ne rien te cacher, comme je pressens l'approche de grands orages entre mon mari et moi, comme il me devient de plus en plus insupportable, j'entrevoyais vaguement dans l'avenir, si comme toi je finissais par être poussé à bout, la nécessité de chercher peut-être un jour des consolations à une union si mal assortie. Ah, Florence! S'écria Valentine avec un accent de tendresse alarmée. « Prends garde, si tu savais !»« Si je savais !» reprit Madame de Lucval en interrompant son amie. « Si je savais !»« Mais justement, et grâce à toi maintenant, je sais. Et après ce que tu viens de me dire, grand Dieu !» ajouta la jeune femme avec une expression d'épouvante naïve et presque comique. « À cette heure que je vois ce qu'il en coûte d'angoisse, d'agitation, de peine, de démarche, de tourment, pour avoir un amant, je te jure bien que jamais je n'en aurai. Et je crois, Dieu me pardonne, que j'aimerais encore mieux aller au pôle Nord ou au Caucase avec mon mari que de me lancer dans les tribulations amoureuses. J'y mourrais à la peine. Un amant, juste au ciel, que de fatigue. Cette fois encore, je t'en réponds, ma paresse me servira de vertu, d'âme. Chacun est vertueux selon ses moyens, et pourvu qu'on le soit, c'est l'essentiel. « N'est-ce pas, Valentine ?» Florence fit, en disant ces mots, une petite mine à la fois si sérieuse et si drôle, que son amie, malgré ses cruelles préoccupations, ne put s'empêcher de sourire pendant que Madame de Lucval ajoutait « Ah, pauvre Valentine, je te plains doublement, car tu as raison, c'est un véritable enfer qu'une pareille vie. » « Oui, oui, un enfer, et crois-moi, Florence, ma bien-aimée Florence, persiste dans ta résolution, reste fidèle à tes devoirs, si pesants qu'ils te semblent. Ah, que mon malheur te serve de leçon, je t'en conjure, ajouta Valentine d'une voix suppliante, attendrie. Ce serait pour moi un éternel remords que de t'avoir donné de mauvaises idées ou un méchant exemple. Toute ma vie, je me reprocherai comme un crime la confiance que j'ai eue en toi, Florence, mon amie, ma tendre amie. Que du moins ce nouveau chagrin me soit épargné, jure-moi. Sois tranquille, Valentine. Je suis encore plus de ton avis que toi-même, s'il est possible. Mais pense-y donc. Moi, paresseuse comme je le suis, moi qui ne puis seulement quitter mon fauteuil pour faire une visite, aller me jeter dans un tel tourbillon, et surtout avec un mari comme le mien, qui vient chez moi 10 fois par jour, entreprendre de tromper un pareil homme, mais ce serait un travail qui me donne vertige rien qu'en y songeant. Non, non, la leçon est bonne, elle portera ses fruits, je t'en réponds. Mais parlons de toi. Je ne vois pas que jusqu'ici, heureusement, les soupçons de ton mari aient été éveillés. Tu te trompes, je le crains, sans en avoir pourtant la certitude. Comment cela? Mon mari, je te l'ai dit, vit presque toujours hors de chez lui. Il sort le matin, après déjeuner, dîne le plus souvent chez cette fille qu'il entretient et où il reçoit ses amis. Il la conduit ensuite au spectacle, rentre chez elle, où l'on joue fort gros jeu, m'a-t-on dit, et il n'est guère de retour chez lui avant 3 ou 4 heures du matin. La belle vie pour un homme marié. Soit confiance, soit indifférence, il me fait peu de questions sur l'emploi de mon temps. Il y a 2 jours, se trouvant subitement indisposé, il est rentré vers 2 heures de l'après-midi. Je le croyais absent pour toute la journée, car il m'avait dit qu'il dînerait dehors. Aussi, je ne revins de chez Michel qu'à 10 heures du soir. Mon Dieu, que tu as dû être saisi en apprenant le retour de ton mari, j'en frissonne, rien que d'y penser. Et l'on a un amant. J'étais si épouvanté que mon premier mouvement a été de ne pas monter chez moi et de ressortir pour ne jamais revenir. C'est à quoi je me serais résolu. Et encore, je ne sais, non, décidément, je serais morte de peur. Enfin, je rassemblais tout mon courage, je montais. Le médecin était là. Monsieur d'Infreville se trouvait si souffrant qu'il ne m'adressa que quelques paroles. Je passai la nuit à le veiller avec un hypocrite redoublement de zèle. Lorsqu'il fut plus calme, il me demanda pourquoi je m'étais absenté tout le jour et où j'étais allé. J'avais médité ma réponse et mon mensonge. Je lui dis que j'étais resté toute la journée chez toi, ainsi que cela m'arrivait souvent, puisqu'il me laissait presque toujours seul. Il parut me croire, me dit même qu'il m'approuvait, connaissant de nom M. de Luceval, et qu'il voyait avec plaisir ma liaison avec sa femme. Je me crus sauvé, mais hier soir, nouvelle crainte. J'ai appris par ma femme de chambre que mon mari l'avait interrogé très adroitement pour savoir si je m'absentais souvent. Mon Dieu! Toutes les transes ont dû revenir. Quelle perplexité, quelles angoisses! Et l'on a un amant. Mes inquiétudes devinrent si graves que je me crus perdu. Voulant sortir à tout prix d'une position intolérable, ce matin je suis allé chez Michel. Prenons un parti extrême, lui ai-je dit, et je vais tout avouer à ma mère. Et lui annoncer que mon mari a de graves soupçons, qu'il ne me reste qu'à fuir. Je puiserai dans mon amour pour vous, Michel, la force de convaincre ma mère. Je ne retournerai pas chez mon mari. Nous quitterons Paris ce soir même, ma mère et moi. Nous irons à Bruxelles. Vous viendrez nous y rejoindre. Le peu qui vous reste et mon travail nous suffiront à vivre. Nous voyagerons, s'il le faut, pour trouver d'autres ressources. Mais du moins, si pauvre, si tourmenté que soit notre existence, je serai délivré de cette horrible nécessité de mentir chaque jour ou de vivre dans de continuelles alarmes. Ces tortures, vous ne les avez jamais soupçonnées, Michel, car je vous les ai cachées, mais je ne puis souffrir plus longtemps. Et il a accepté. Lui ? S'écria Valentine avec amertume. Ah, que j'étais insensé de compter sur une pareille résolution de sa part. Il me regarde avec stupeur. Cette fuite, cette vie agitée, dure, malheureuse peut-être, épouvantait sa paresse ou plutôt son affreux égoïsme. Il a traité ma résolution de folie, me disant qu'il ne fallait prendre ses parties extrêmes qu'à la dernière extrémité, qu'après tout mon mari n'avait tout au plus que des soupçons. Et c'est Michel qui m'a donné l'idée de la lettre que je t'ai demandée. Après tout, Valentine, il a peut-être raison d'hésiter à fuir, et cela dans ton intérêt même. Car enfin, rien n'est désespéré. Florence, un pressentiment me dit que... Madame d'Infreville ne put achever. Un nouvel incident interrompit cet entretien. La nuit était presque venue. L'on touchait à la fin des beaux jours de l'automne. Le salon où se tenaient les 2 jeunes femmes n'était plus éclairé que par la clarté crépusculaire qui succède au coucher du soleil. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. Messieurs de Luceval et d'Infreville apparurent au regard stupéfait de Florence et de Valentine. Celle-ci, saisie d'effroi, s'écria « Je suis perdue ». Et accablée de honte à l'aspect de Monsieur de Luceval qui accompagnait Monsieur d'Infreville, elle cacha son visage dans son mouchoir. Florence, se rapprochant de son amie comme pour la protéger, dit impérieusement à Monsieur de Luceval « Que voulez-vous, monsieur ?»« Vous convaincre de mensonges et d'une indigne complicité, madame ?» s'écria M. de Luceval d'une voix menaçante. J'avais appris que depuis quelque temps, Mme d'Infreville passait des journées presque entières hors de chez elle, madame, ajouta l'autre mari en s'adressant à Florence, pendant que son amie, agitée d'un tremblement convulsif, continuait de cacher son visage entre ses mains. Hier, j'ai demandé à Mme d'Infreville où elle avait passé la journée. Elle m'a répondu qu'elle l'avait passée chez vous. « Cette lettre de vous, madame, » et il la montra, « écrite de complicité avec ma femme et destinée à me rendre dupe d'un mensonge infâme, est tombée entre les mains de M. de Luceval. Il m'a juré sur l'honneur, et je le crois, qu'il n'avait jamais vu ici Mme d'Infreville. Je ne suppose pas, madame, que vous puissiez soutenir plus longtemps ce qu'est le contraire de toute vérité. Oui, madame, s'écria M. de Luceval. Il faut que votre déclaration porte le dernier coup à une femme coupable. Ce sera l'une des punitions de votre odieuse complicité. Tout ce que j'ai à vous déclarer, monsieur, répondit résolument Florence, c'est que Mme d'Infreville est et sera toujours ma meilleure amie, et plus elle sera malheureuse, plus elle devra compter sur ma tendre affection. Comment, madame ? S'écria M. de Luceval. Vous osez. J'oserais bien plus, monsieur. J'oserais dire à M. d'Infreville que sa conduite envers sa femme a toujours été celle d'un homme sans cœur et sans honneur. « Assez, madame !» dit M. de Luceval, exaspéré. « Assez !»« Non, monsieur, ce n'est pas assez, » reprit Florence. « J'ai encore à rappeler à M. d'Infreville, qui est chez moi, et comme il sait maintenant dans quelle estime je le tiens, il comprendra que sa présence n'est plus convenable ici. »« Vous avez raison, madame, j'en ai trop entendu, » dit M. d'Infreville avec un sourire sardonique. Puis, prenant rudement sa femme par le bras, il lui dit « Suivez-moi, madame. » La malheureuse créature, anéantie, éperdue, se leva machinalement, cachant toujours son visage entre ses mains, tant sa honte était écrasante, puis elle murmura « Oh, ma mère, ma mère !»« Valentine, je ne te quitte pas !» s'écria Florence en s'élançant vers son amie. Mais M. de Luceval, poussé à bout, saisit violemment sa femme à bras-le-corps et la contint en disant « C'est me braver avec trop d'audace !» M. d'Infreville profita de ce moment pour entraîner Valentine, qui, d'une voix entrecoupée par les sanglots, jeta ses derniers mots à travers le mouchoir qui couvrait sa figure. « Florence, adieu !» Et elle disparut avec M. d'Infreville. Madame de Luceval, pâle d'indignation et de douleur, resta un moment contenue par son mari, qui ne lui rendit la liberté de ses mouvements que lorsque Valentine eut quitté le salon. La jeune femme dit alors d'une voix calme, Monsieur de Luceval, vous avez porté brutalement la main sur moi. De ce jour, tout est à jamais rompu entre nous. Madame, vous avez votre volonté, monsieur, j'aurai la mienne, et je vous le prouverai. Et votre volonté, madame, dit monsieur de Luceval d'un ton sardonique, me ferez-vous du moins la grâce de me la signifier? Certainement. Voyons, madame, la voici. Nous nous séparons à l'amiable, sans bruit, sans scandale. Ah, madame m'arrange cela ainsi. J'ai ouï dire que très souvent cela s'arrangeait ainsi. Et à 17 ans à peine, madame pourra courir le monde à son gré. Courir le monde? Dieu m'en préserve, monsieur. Vous savez que tel n'est pas mon goût. Il ne s'agit pas de plaisanter, madame, s'écria monsieur de Luceval. Je vous demande si vous êtes réellement assez folle pour vous imaginer qu'à 17 ans à peine, vous pouvez vous passer la fantaisie de vivre seule. Lorsque vous êtes en puissance de mari. Je ne compte pas du tout vivre seule, monsieur. Et avec qui, madame, vivra-t-elle? Valentine est malheureuse. Je me retirerai auprès d'elle et de sa mère. Grâce à Dieu, ma fortune est indépendante de la vôtre, monsieur. Vous retirez auprès de cette malheureuse une femme qui a eu un amant, une femme que son mari va chasser ce soir de sa maison, eh bien, il fera. Une femme qui mérite le mépris de tous les honnêtes gens. Et c'est auprès d'une pareille créature que vous voulez vivre? Mais oser seulement avouer un pareil projet, c'est à vous faire enfermer, madame. Monsieur de Luceval, je suis horriblement fatigué des événements de cette journée. Vous m'obligerez de me laisser tranquille. J'ajouterai seulement que si quelqu'un mérite le mépris des honnêtes gens, c'est monsieur d'Infreville, car ce sont ses indignes traitements qui ont poussé sa femme à sa perte. Quant à Valentine, ce qu'elle mérite, et ce qu'elle devra toujours attendre de moi, c'est la plus tendre compassion. Mais c'est inouï, mais c'est à vous faire enfermer, vous dis-je. Voici mes derniers mots, monsieur de Luceval. L'on ne m'enfermera pas, j'aurai ma liberté, et vous aurez la vôtre, et de ma liberté j'userai. Nous verrons cela, madame. Vous le verrez, monsieur.